Chapitre 3, ce qui se passait 3 nuits après à 100 lieues du palais royal. 3 nuits après cette nuit où, pour y chercher des désappointements successifs, nous avons vu le régent se rendre de Paris à Chelles, de Chelles à Meudon et de Meudon au faubourg Saint-Antoine, il se passait dans les environs de Nantes une scène dont nous ne pouvons omettre les moindres détails sans nuire à l'intelligence de cette histoire. Nous allons donc, en vertu de notre privilège de romancier, transporter le lecteur avec nous sur le lieu de cette scène. Sur la route de Clisson, à 2 ou 3 lieues de Nantes, près de ce couvent fameux par le séjour d'Abélard, s'élevait une noire et longue maison entourée de ces arbres trapus et sombres dont la Bretagne est couverte. Des haies sur la route, des haies autour de l'enclos, outre les murs, des haies partout, des haies touffues, épaisses, impénétrables même au regard, et coupées et interrompues seulement par une haute grille de bois surmontée d'une croix et qui servait de porte. Tel était l'aspect extérieur que cette maison si bien gardée présentait. Encore cette grille unique ne donnait-elle entrée que sur un jardin au fond duquel on voyait un mur percé à son tour d'une petite porte étroite, massive et toujours fermée. De loin, cette demeure grave et triste semblait une prison pleine de sombres douleurs. De près, c'était un couvent peuplé de jeunes augustines, assujetties à une règle assez peu sévère au regard des mœurs de la province, mais rigide comparée aux mœurs de Versailles et de Paris. La maison était donc inaccessible sur 3 de ses faces, mais la 4e, et c'était la face opposée à la route, dont au reste, au-dessus des murs et des arbres, on ne pouvait apercevoir que les toits, était appuyée à une large pièce d'eau qui baignait le bas de la muraille. À 10 pieds, au-dessus de la surface liquide et mouvante, étaient les fenêtres du réfectoire. Ce petit lac, comme tout le reste du couvent, semblait soigneusement gardé. Il était entouré par de hautes palissades de bois qui disparaissaient à l'extrémité de la pièce d'eau, derrière des roseaux immenses dominant de larges feuilles de nymphéas flottant à fleurs d'eau et dans les intervalles desquels s'épanouissaient de frais et suaves calices blancs et jaunes qui semblaient des lys en miniature. Le soir, des volées d'oiseaux et surtout de sansonnets s'abattaient dans ces roseaux et babillaient joyeusement. Une seule grille de fer donnait sur le lac et livrait en même temps passage aux eaux d'une petite rivière qui alimentait la pièce d'eau et qui, du côté opposé, sortait par une grille pareille, mais solide et ne s'ouvrant pas. Quant à se glisser par-dessous la grille, en descendant le cours de la rivière ou en le remontant, c'était une chose parfaitement impossible, attendu que les barreaux s'enfonçaient bien avant dans son lit. L'été, on voyait dormir dans les iris et les glaïeuls une petite barque de pêcheurs qui s'amarrait à cette même grille, toute tapissée de clochettes d'eau et de liserons, qui dissimulaient sous leur verte enveloppe la rouille que l'humidité de la situation avait amassée sur le fer. Cette barque était celle du jardinier, qui s'en servait de temps en temps pour aller jeter la ligne ou l'épervier dans les parties les plus poissonneuses de l'étang, et qui alors donnait aux pauvres reclus ennuyés le spectacle de la pêche. Mais quelquefois aussi, l'été toujours, mais seulement par les nuits les plus sombres, la grille de la rivière s'ouvrait mystérieusement. Un homme silencieux et enveloppé d'un manteau descendait dans la petite barque qui semblait se détacher toute seule du barreau où elle était amarrée et qui, glissant alors sans bruit, sans secousse et comme poussé par un souffle invisible, allait s'arrêter contre la muraille du couvent juste au-dessous d'une des fenêtres grillées du réfectoire. Alors un petit signal se faisait entendre, imitant ou le coassement de la grenouille, ou le cri de la chouette, ou le houhoulement du chat-huant, et une jeune fille apparaissait à cette fenêtre, assez largement grillée pour que sa blonde et charmante tête y passât, mais trop élevée pour que le jeune homme au manteau, malgré les efforts réitérés qu'il avait faits, ait jamais pu atteindre jusqu'à sa main. Il fallait donc se contenter d'une conversation bien timide et bien tendre, dont le bruissement de l'eau ou le frémissement de la brise emportait encore la moitié. Puis, après une heure passée ainsi, commençaient les adieux qui duraient une autre heure. Et puis enfin, lorsque les jeunes gens étaient convenus d'une autre nuit et d'un signal différent, la barque s'éloignait, reprenant le chemin qu'elle avait suivi pour venir, la grille se refermait avec le même silence qu'elle s'était ouverte, et le jeune homme s'éloignait en envoyant un baiser vers la fenêtre que la jeune fille repoussait avec un soupir. Mais il ne s'agit plus maintenant de l'été, nous sommes, comme nous l'avons dit, au commencement du mois de février du terrible hiver de 1719. Les beaux arbres touffus sont poudrés de givre, les roseaux sont dépeuplés de leurs hôtes joyeux. Et cependant, malgré cette nuit sombre, malgré ce froid piquant, malgré cette absence complète d'étoiles au ciel, un cavalier seul, sans laquais, sortait par la grande porte de Nantes et s'aventurait dans la campagne, suivant non pas même la grande route qui conduit de Nantes à Clisson, mais un chemin de traverse qui venait aboutir à cette même route à une centaine de pas des fossés. À peine sur ce chemin, il laissa tomber la bride sur le cou de sa monture, excellent cheval de race, qui, au lieu de courir étourdiment comme eût fait un destrier moins bien dressé, se contenta de prendre un trot assez modéré pour lui laisser le loisir de poser ses pieds avec précaution et sécurité dans ce chemin qui semblait uni comme un tapis de billard, mais qui était tout semé d'ornières et de quartiers de rochers que recouvrait traîtreusement la neige. Pendant un quart d'heure à peu près, tout alla bien. Mais bientôt, après les précautions instinctives prises par le cheval, la pauvre bête buta contre un caillou et manqua de s'abattre. Cependant, ce mouvement eut la durée d'un éclair à peine. Au premier sentiment qu'il eut de la bride, le cheval se releva, mais son cavalier, quelle que fût sa préoccupation, s'aperçut qu'il commençait à boiter. D'abord, il ne s'en inquiéta point et continua sa route, mais bientôt la claudication devint plus marquée, et le jeune homme, pensant que quelque éclat de caillou était resté dans le sabot de sa monture et le blessait, descendit et examina le pied, qui lui parut non seulement déféré, mais même saignant. En effet, en regardant la neige, il vit une trace rougeâtre qui ne lui laissa aucun doute, son cheval était blessé. Le jeune homme paraissait vivement contrarié de cet accident et réfléchissait évidemment aux moyens d'y aviser lorsqu'il crut, malgré le tapis de neige qui recouvrait le chemin, entendre le bruit d'une cavalcade. Il prêta l'oreille un instant pour s'assurer s'il ne se trompait point, puis, convaincu sans doute que plusieurs hommes à cheval faisaient même route que lui, et sentant que si ces hommes étaient par hasard à sa poursuite, il ne pouvait manquer de le rejoindre, il prit son parti à l'instant même, remonta vivement sur son cheval, lui fit faire 10 pas hors du chemin, se rangea avec lui derrière quelques arbres renversés, mit son épée nue sous son bras, tira un pistolet de ses fontes et attendit. En effet, les cavaliers arrivaient à toute bride, et l'on distinguait, malgré l'obscurité, leurs manteaux sombres et le cheval blanc de l'un d'eux. Ils étaient 4, hein, et marchaient sans parler. De son côté, l'inconnu retenait son haleine, et le cheval, comme s'il eût compris le danger que courait son maître, demeurait immobile et silencieux comme lui. N'entendant aucun bruit, la cavalcade dépassa donc le groupe d'arbres qui cachait monture et cavalier, et ce dernier se croyait déjà débarrassé de ses importuns, quels qu'ils fussent, lorsque tout à coup la cavalcade s'arrêta. Celui qui en paraissait le chef descendit, tira une lanterne sourde des plis de son manteau, et, faisant de la lumière, éclaira la route. Or, comme la route cessait d'offrir la trace qu'ils avaient suivie jusque-là, ils jugèrent qu'ils l'avaient dépassée, revinrent sur leurs pas, reconnurent l'endroit où le cheval et le cavalier avaient fait un écart, et, faisant alors quelques pas en avant, Celui qui portait la lanterne la dirigea vers le groupe d'arbres, au milieu duquel il fut facile à la petite troupe de distinguer alors, malgré leur silence et leur immobilité, un cavalier et son cheval. Aussitôt, le bruit de plusieurs pistolets qu'on armait se fit entendre. « Hola, messieurs !» dit alors le cavalier au cheval blessé, prenant le premier la parole. « Qui êtes-vous et que voulez-vous ? »
« C'est bien lui !» murmurèrent deux ou trois voix. « Nous ne nous étions pas trompés !»
Alors l'homme à la lanterne continua de s'avancer dans la direction du cavalier inconnu. «
Un pas de plus, et je vous tue, monsieur !» dit le cavalier. « Nommez-vous donc, et à l'instant même, que je sache à qui j'ai affaire !»«
Ne tuez personne, monsieur de Chanlay, » répondit l'homme à la lanterne d'une voix calme, « et remettez, croyez-moi, vos pistolets dans vos fontes !»
« Ah, c'est vous, marquis de Pontcallec ?» répondit celui à qui l'on avait donné le nom de Chanlay.
« Oui, monsieur, c'est moi.
Et que venez-vous faire ici, je vous prie ?»«
Vous demandez quelques explications sur votre conduite. Approchez donc et répondez, s'il vous plaît. »«
L'invitation est faite d'une singulière façon, marquis. » « Ne pourriez-vous pas, si vous désirez que j'y réponde, la faire en d'autres termes et lui donner une autre forme ?»«
Approchez, Gaston, » dit une autre voix. « Nous avons réellement à vous parler, mon cher. »«
À la bonne heure, » dit Chanlay, « je reconnais votre façon de faire, mon Louis, mais j'avoue que je ne suis pas encore habitué aux manières de monsieur de Pontcallec. »
Mes manières sont celles d'un franc et rude breton qui n'a rien à cacher à ses amis, monsieur, répondit le marquis, et qui ne s'oppose pas à ce que l'on l'interroge aussi franchement qu'il interroge les autres.
Je me joins à mon Louis, dit une autre voix, pour prier Gaston de s'expliquer à l'amiable. Notre premier intérêt, ce me semble, est de ne point nous faire la guerre entre nous.
« Merci du quédic, » dit le cavalier, « c'est mon avis aussi, en conséquence me voici. » En effet, à ces paroles plus pacifiques, le jeune homme, remettant son pistolet dans sa fonte et son épée dans le fourreau, se rapprocha du groupe qui se tenait au milieu de la route et attendait l'issue du pourparler.
« Monsieur de Talouette, » dit le marquis de Pontcallec, du ton d'un homme qui a acquis ou à qui on a concédé le droit de donner des ordres, « veillez sur nous, que personne n'approche sans que nous soyons prévenus. »
Monsieur de Talouette obéit aussitôt et commença de faire décrire à son cheval un grand cercle tout autour du groupe, ne cessant pas un instant d'avoir l'œil et l'oreille au guet, comme il en avait reçu l'invitation.
« Et maintenant, » dit le marquis de Pontcallec en remontant à cheval, « éteignons notre lanterne, puisque nous avons trouvé notre homme. »«
Messieurs, » dit alors le chevalier de Chanlay, « permettez-moi de vous dire que tout ce qui se passe en ce moment me semble étrange. C'est moi que vous suiviez réellement, à ce qu'il paraît. C'est moi que vous cherchiez, dites-vous. Vous m'avez trouvé, et vous pouvez éteindre votre lanterne. Voyons, que signifie tout ceci ? Si c'est une plaisanterie, l'heure et le lieu, je vous l'avoue, me paraissent mal choisis.
Non, monsieur, répondit le marquis de Pontcallec, de son ton dur et bref, ce n'est point une plaisanterie, c'est un interrogatoire.
Un interrogatoire, dit le chevalier de Chanlay, en fronçant le sourcil.
C'est-à-dire une explication, dit Montlouis.
Interrogatoire ou explication, reprit Pontcallec, peu importe, la circonstance est trop grave pour jouer sur le sens ou ergoter sur les mots. Interrogatoire ou explication, je le répète, répondez donc à nos questions, monsieur de Chanlay.
Vous commandez durement, marquis, reprit le chevalier de Chanlay.
Si je commande, c'est que j'en ai le droit. Suis-je votre chef ou ne le suis-je pas?
Si fait, vous l'êtes, mais ce n'est pas une raison pour oublier les égards qu'on se doit entre gentilshommes.
Monsieur de Chanlay, et toutes ces difficultés ressemblent fort à des échappatoires. Vous avez fait serment d'obéir, obéissez.
J'ai fait serment d'obéir, monsieur, répondit le chevalier, mais non pas comme un laquais.
Voyons, mon cher Gaston, dit Montlouis, parle, je t'en prie, le plus tôt sera le mieux. D'un mot, tu peux nous ôter tout soupçon de l'esprit.
Tout soupçon? S'écria Gaston, pâle et frémissant de colère. Vous me soupçonnez donc?
Chevalier, rappelez-vous les faits. Nous conspirions tous les quatre ensemble.
Nous ne réclamions pas votre appui, vous êtes venu nous l'offrir, disant qu'outre le bien général que vous vouliez nous aider à faire, vous aviez, vous, une offense particulière à venger. Vous êtes-vous présenté ainsi ?
C'est vrai.
Alors nous vous avons reçu, accueilli parmi nous, comme un ami, comme un frère. Nous vous avons dit toutes nos espérances, confié tous nos projets. Bien plus, vous avez été élu par le sort pour frapper le coup le plus utile et le plus glorieux. Chacun de nous vous a offert de prendre votre place et vous avez refusé, est-ce vrai ?
Vous ne dites pas un mot qui ne soit l'exacte vérité, marquis.
C'est ce matin que nous avons tiré au sort. Ce soir, vous deviez être sur la route de Paris. Où vous trouvons-nous, au lieu de cela, sur celle de Clisson, où logent les plus mortels ennemis de l'indépendance bretonne, où loge le maréchal de Montesquieu, notre ennemi juré ?
Ah, monsieur, fit dédaigneusement Gaston,
répondez par des paroles franches et non par de méprisants sourires. Répondez, monsieur de Chanlay, je vous l'ordonne, répondez.
De grâce, Gaston, ajoutèrent à la fois Ducoédic et Montlouis,
de grâce, répondez.
Et sur quoi voulez-vous que je vous réponde ?
Sur vos absences fréquentes depuis 2 mois, sur le mystère dont vous enveloppez votre vie, refusant une ou deux fois par semaine de vous mêler à nos réunions nocturnes. Eh bien, Gaston, nous vous l'avouons franchement, toutes ces absences nous ont inquiétés. Eh bien, un mot, Gaston, et nous serons rassurés.
Vous voyez bien que vous étiez coupable, monsieur, puisque vous vous cachiez au lieu de poursuivre votre route.
Je ne poursuivais pas ma route, parce que mon cheval s'est blessé. Vous pouvez bien le voir au sang qui tache la neige.
Mais pourquoi vous cachiez-vous ?
Parce que je voulais savoir avant toute chose quels étaient les gens qui me poursuivaient. N'ai-je donc pas à craindre d'être arrêté aussi bien que vous ?
Enfin, où alliez-vous ?
Messieurs, ayez, je vous prie, confiance en moi et ménagez mon secret. C'est un secret de jeune homme, un secret où non seulement mon honneur, mais encore celui d'une autre personne est engagé. Peut-être ne savez-vous pas combien ma délicatesse est extrême, exagérée peut-être sur ce point-là.
Alors c'est donc un secret d'amour, dit Montlouis.
Oui, messieurs, et même un secret de premier amour, répondit Gaston.
Défaite que tout cela, s'écria Pontcallec.
« Marquis, répéta Gaston avec hauteur,
c'est trop peu dire, mon ami, reprit Ducoédic, comment croire que tu vas à un premier rendez-vous par ce temps abominable et que ce rendez-vous n'est pas à Clisson quand, excepté le couvent des Augustines, il n'y a pas une seule maison bourgeoise à 2 lieues à la ronde ?»«
Monsieur de Chanlay, dit le marquis de Pontcallec fort agité, vous avez fait le serment de m'obéir comme à votre chef et de vous dévouer corps et âme à notre sainte cause. » Monsieur de Chanlay, la partie que nous avons entreprise est grave. Nous y jouons nos biens, notre liberté, notre tête, et plus que tout cela, notre honneur. Voulez-vous répondre catégoriquement et clairement aux questions que je vais vous adresser, au nom de nous tous, répondre de manière à ne nous laisser aucun doute ?
Marquis, dit alors le chevalier d'une voix émue, non seulement vous m'insultez en me soupçonnant, mais encore vous me percez le cœur en m'affirmant que je ne puis détruire ces soupçons qu'en vous initiant à mon secret. Tenez, ajouta-t-il en tirant un portefeuille de sa poche, en écrivant dessus quelques mots à la hâte avec un crayon et en déchirant la feuille sur laquelle ces quelques mots étaient écrits. Tenez, voici ce secret que vous voulez savoir. Je le tiens d'une main et de l'autre, je prends un pistolet que j'arme. Voulez-vous me faire réparation de l'outrage dont vous venez de me couvrir ? Ou à mon tour je vous donne ma foi de gentilhomme que je me fais sauter la cervelle. Moi mort, vous ouvrirez ma main et vous lirez ce billet, et vous verrez alors si je méritais un soupçon pareil. »
Et Gaston approcha le pistolet de sa tempe avec cette froide résolution qui indique que les effets vont suivre les paroles.
« Gaston, Gaston !» s'écria Montlouis, tandis que Ducoédic lui saisissait le bras.
« Arrête, au nom du ciel ! Marquis, il le ferait comme il le dit. Pardonnez-lui, il vous dira tout. N'est-ce pas, Gaston, que tu n'auras point de secret pour tes frères, quand, au nom de leurs femmes et de leurs enfants, tes frères te supplieront de tout leur dire ?»«
Mais certainement, dit le marquis, certainement que je lui pardonne, et bien plus que je l'aime, il le sait bien, par Dieu. » Qu'il nous prouve son innocence seulement, et aussitôt je lui fais toutes les réparations qui lui sont dues,
Mais avant, rien. Il est jeune, il est seul au monde, il n'a pas comme nous des femmes, des mères et des enfants dont il expose le bonheur et la fortune. Il ne risque que sa vie, et il en fait le cas qu'on en fait à 20 ans. Mais avec sa vie, il joue les nôtres. Et cependant qu'il dise un mot, un seul mot, qu'il nous présente une justification probable, et le premier, je lui ouvre les bras.
« C'est bien, marquis, » dit Gaston après quelques secondes de silence, « suivez-moi donc et vous serez satisfait. »«
Et nous ?» demandèrent Montlouis et Ducouédic.
« Venez aussi, messieurs, vous êtes tous gentilshommes, je ne risque pas plus en confiant mon secret à 4 qu'à un seul. »
Le marquis appela Talouette, qui, pendant tout ce temps, avait fait bonne garde, et qui vint se réunir au groupe, et suivit le chevalier sans faire une seule question sur ce qui s'était passé. Alors les 5 hommes continuèrent leur chemin, mais plus lentement, car le cheval de Gaston boitait tout bas. Le chevalier, qui leur servait de guide, les conduisit vers le couvent que nous connaissons déjà. Au bout d'une demi-heure, ils arrivèrent sur les bords de la petite rivière. À 10 pas de la grille, Gaston s'arrêta.
« C'est ici, » dit-il.
« Ici ?
À ce couvent d'Augustine ?
Ici même, messieurs, il y a dans ce couvent une jeune fille que j'aime depuis 1 an pour l'avoir vue à la procession de la fête-dieu à Nantes. Elle m'a remarqué aussi, je l'ai suivie, je l'ai épiée, et je lui ai fait tenir une lettre.
« Mais comment la voyez-vous ? » demanda le marquis.
Sans louis ont mis le jardinier dans mes intérêts, il m'a donné une double clé de 7 grilles. L'été, j'arrive en bateau jusqu'au bas des murs du couvent. À 10 pieds de la surface de l'eau est une petite fenêtre où elle m'attend. S'il faisait plus clair, vous pourriez la distinguer d'ici, mais malgré l'obscurité, moi, je la vois.
Oui, je comprends bien comment vous faites l'été, reprit le marquis, mais en hiver, le bateau ne peut plus naviguer.
« C'est vrai, messieurs, mais à défaut de bateau, il y a ce soir une croûte de glace. J'irai donc à elle sur la glace ce soir. Peut-être se brisera-t-elle sous mes pieds et m'engloutirai-je. Tant mieux, car alors, je l'espère, vos soupçons me suivront et s'engloutiront avec moi.
« J'ai un poids énorme de moins sur la poitrine, » dit Montlouis. « Ah, mon pauvre Gaston, que tu me rends heureux, car ne l'oublie pas, c'est moi et Ducouédic qui avons répondu de toi. »«
Ah, chevalier, » s'écria le marquis, « pardonnez-nous, embrassez-moi. »«
Volontiers, marquis, mais vous avez détruit une partie de mon bonheur. »«
Comment cela ? » ?»«
Hélas, je voulais être seul à savoir que j'aimais. » J'ai tant besoin d'illusion et de courage. Ne vais-je pas la quitter ce soir pour ne plus la revoir jamais?
Qui sait, chevalier, il me semble que vous envisagez l'avenir bien tristement.
Je sais ce que je dis, mon Louis.
Si vous réussissez, et avec votre courage, votre résolution et votre sang-froid, vous devez réussir, chevalier. Alors la France est libre, alors la France vous doit sa liberté, et vous serez maître de tout ce qu'il vous plaira.
« Un marquis, si je réussis, ce sera pour vous. Quant à moi, mon sort est fixé.
Allons donc, chevalier, j'ai du courage. »
Gaston attacha son cheval à un arbre. Grâce à une planche jetée sur la petite rivière et formant un pont, il ouvrit la grille et, ayant suivi quelque temps les palissades afin de s'éloigner de l'endroit où le cours de la rivière empêchait l'eau de prendre, il posa son pied sur la glace qui fit entendre tout d'abord un craquement sourd et prolongé.
« Au nom du ciel !» s'écria Montlouis en tempérant cependant sa voix.
« Gaston, pas d'imprudence !»«
À la grâce de Dieu !»
Revenez, que nous vous embrassions et que nous vous disions adieu. Venez, Gaston.
Avec grand plaisir.
Et le chevalier revint sur ses pas et fut tour à tour serré cordialement dans les bras des 4 cavaliers qui attendirent pour s'éloigner qu'il fût arrivé au terme de sa course périlleuse, se tenant prêt à lui porter secours s'il lui arrivait malheur pendant le trajet. Malgré les craquements de la glace, Gaston poursuivit hardiment son chemin, car à mesure qu'il approchait, il s'apercevait d'une chose qui lui faisait battre le cœur, c'est que les pluies d'hiver avaient fait hausser l'eau du petit lac, et qu'arrivé au pied de la muraille, il allait sans doute pouvoir atteindre cette petite fenêtre. Il ne se trompait pas.
Arrivé au terme de son chemin, il rapprocha ses mains l'une de l'autre, imita le cri du chat-huant, et la fenêtre s'ouvrit. Aussitôt, douce récompense du danger qu'il avait couru, il vit apparaître, presque à la hauteur de la sienne, la charmante tête de sa bien-aimée, tandis qu'une main douce et tiède cherchait et rencontrait sa main. C'était la première fois. Gaston saisit cette main avec transport et la couvrit de baisers. « Ah, Gaston, vous voilà venu, malgré le froid, et sans bateau sur la glace, n'est-ce pas? Ah, je vous l'avais seulement bien défendu dans ma lettre, à peine est-elle prise. » « Avec votre lettre sur mon cœur, Hélène, il me semblait ne courir aucun danger. Mais qu'aviez-vous donc de si triste et de si sérieux à me dire? Vous avez pleuré? Hélas, mon ami, depuis ce matin, je ne fais pas autre chose. » « Depuis ce matin, murmura Gaston, avec un triste sourire, c'est étrange, et moi aussi je pleurerais depuis ce matin si je n'étais pas un homme. Que dites-vous, Gaston ? Rien, mon ami, mais revenons à vous, quels sont vos chagrins, Hélène, dites-moi cela. Hélas, vous le savez, je ne m'appartiens pas, je suis une pauvre orpheline élevée ici, n'ayant d'autre patrie, d'autre monde, d'autre univers que ce couvent. » Je n'ai jamais vu personne à qui je puisse appliquer le nom de père et de mère, je crois à ma mère morte, et l'on m'a toujours dit mon père absent. Je dépends donc d'une puissance invisible qui s'est révélée à notre supérieur seulement. Ce matin, notre bonne mère m'a fait venir, et les larmes aux yeux m'a annoncé mon départ. « Votre départ, Hélène, vous quittez ce couvent ?»« Oui, ma famille me réclame, Gaston. »« Votre famille, mon Dieu ?» Que nous veut donc encore ce nouveau malheur ? Oui, oui, c'en est un, Gaston, quoique d'abord notre bonne mère m'en ait félicité comme d'une joie. Mais moi j'étais heureuse dans ce couvent, je ne demandais pas davantage au Seigneur que d'y rester jusqu'au moment où je deviendrai votre femme. Le Seigneur dispose de moi autrement, que vais-je devenir ? Et cet ordre qui vous enlève à votre couvent ? N'admet ni discussion ni retard, Gaston. Hélas, il paraît que j'appartiens à une famille puissante, il paraît que je suis la fille d'un très grand seigneur, mais ma bonne mère m'a annoncé qu'il fallait la quitter, et j'ai fondu en larmes, je me suis jeté à ses genoux, je lui ai dit que je ne demandais qu'une chose, c'était de ne la quitter jamais. Alors elle s'est doutée qu'il y avait un autre motif que celui que je lui donnais. Elle m'a pressé, interrogé. Oh, pardonnez-moi, Gaston, j'avais besoin de confier mon secret à quelqu'un. J'avais besoin d'être plainte et consolée. Je lui ai tout dit, Gaston, que je vous aimais, que vous m'aimiez, excepté la manière dont nous voyons là. J'avais peur, si je disais cela, qu'on ne m'empêchât de vous voir une dernière fois, et je voulais cependant bien vous dire adieu. « Mais n'avez-vous pas dit, Hélène, quels étaient mes projets sur vous, que lié moi-même à une association qui dispose de moi pour 6 mois, pour 1 an peut-être encore, ce temps écoulé, le jour où je redeviendrai libre, enfin mon nom, ma main, ma fortune, toute ma vie, enfin, vous appartenez ?»« Je l'ai dit, Gaston, et voilà ce qui m'a fait penser que j'étais la fille de quelque grand seigneur, car alors la bonne mère Ursule m'a répondu, « Il faut oublier le chevalier, ma fille, car qui sait si votre nouvelle famille consentirait à cette union ? Mais ne suis-je pas d'une des plus vieilles familles de la Bretagne, et sans que je sois riche, ma fortune n'est-elle pas indépendante ? Lui avez-vous fait cette observation, Hélène ? Oh, je lui ai dit, Gaston me prendrait orpheline, sans nom, sans fortune. On peut me séparer de Gaston, ma mère, mais ce serait une cruelle ingratitude à moi de l'oublier, et je ne l'oublierai jamais. Hélène, vous êtes un ange, et vous ne soupçonnez pas quels peuvent être les parents qui vous réclament ce sort inconnu auquel vous êtes destinée. Non, il paraît que c'est un secret profond, inviolable, d'où dépend tout mon bonheur à venir. Seulement, je vous le dis, Gaston, j'ai peur que ses parents ne soient de bien grands seigneurs, car il m'a semblé, je me trompais sans doute, que notre supérieure elle-même me parlait, je ne sais comment vous dire, Gaston, me parlait avec respect. À vous, Hélène ? Oui. « Allons, tant mieux, » dit Gaston en poussant un soupir. Comment, tant mieux, s'écria Hélène. Gaston, vous réjouiriez-vous de notre séparation?
Non, Hélène, mais je me réjouis de ce que vous trouvez une famille au moment où vous alliez peut-être perdre un ami.
Perdre un ami, Gaston, mais je n'ai que vous d'amis. Allais-je vous perdre?
J'allais du moins être forcé de vous quitter pour quelque temps, Hélène.
Que voulez-vous dire?
Je veux dire que le destin a mis à tâche de nous faire semblables en tout, et que vous n'êtes pas la seule à ignorer ce que vous garde le lendemain.
Gaston, Gaston, que signifie ce langage étrange?
Que moi aussi, Hélène, je suis poussé par une fatalité à laquelle il faut que j'obéisse, que moi aussi je suis soumis à une puissance supérieure et irrésistible.
Vous? Oh mon Dieu!
À une puissance qui me condamnera peut-être à vous abandonner dans 8 jours, dans 15 jours, dans 1 mois, non seulement à vous abandonner, vous, mais encore à quitter la France.
Ah, que me dites-vous là, Gaston?
Ce que, dans mon amour, ou plutôt dans mon égoïsme, je n'avais pas osé vous dire encore. J'allais au-devant de l'heure et nous sommes arrivés, les yeux fermés. Et ce matin, mes yeux se sont ouverts, il faut que je vous quitte, Hélène.
Mais pourquoi faire? Qu'avez-vous entrepris? Qu'allez-vous devenir?
Hélas, nous avons chacun notre secret, Hélène, dit le chevalier en secouant tristement la tête.
Que le vôtre ne soit pas si terrible que le mien, c'est tout ce que je demande à Dieu.
Gaston, n'avez-vous pas dit la première qu'il fallait nous séparer, Hélène? La première, n'avez-vous pas eu le courage de renoncer à moi? Eh bien, soyez bénie pour ce courage qui me donne l'exemple, car moi, oh moi, tenez, je ne l'avais pas. Et à ces mots, le jeune homme appuya de nouveau ses lèvres sur la belle main qu'on n'avait pas songé à retirer un instant des siennes. Et malgré les efforts qu'il fit sur lui-même, Hélène s'aperçut qu'il pleurait amèrement.
« Oh, mon Dieu, murmura-t-elle, qu'avons-nous fait au ciel pour être si malheureux ?»
À cette exclamation, Gaston releva la tête.
« Voyons, dit-il, comme se parlant à lui-même, voyons, et du courage, il y a dans la vie de ces nécessités contre lesquelles il est inutile de se raidir. Obéissons donc chacun de notre côté, Hélène, obéissons sans lutte, sans murmure. Peut-être désarmerons-nous le sort à force de résignation. Pourrais-je vous revoir encore avant votre départ?
Je ne crois pas, je pars demain.
Et quelle route prenez-vous?
Celle de Paris.
Comment vous allez donc?
Je vais à Paris.
Grand Dieu, s'écria Gaston, et moi aussi.
Et vous aussi, Gaston?
Et moi aussi, il faut que je parte, Hélène.
Nous nous trompions, nous ne nous quittions pas.
Oh mon Dieu, que me dites-vous là, Gaston?
Que nous avions tort d'accuser la Providence et qu'elle se venge en nous accordant plus que nous n'osions lui en demander.
Non seulement nous pourrons nous voir tout au long de la route, mais encore à Paris, eh bien à Paris, nous ne serons pas entièrement séparés. Comment partez-vous?
Dans le carrosse du couvent, je crois, lequel doit voyager par la poste, mais à petite journée pour ne point me fatiguer.
Avec qui partez-vous?
Avec une religieuse que l'on me donne pour m'accompagner et qui reviendra au couvent lorsqu'elle m'aura remise aux mains des personnes qui m'attendent.
Mais alors tout va pour le mieux, Hélène. Moi, je suis à cheval, comme un voyageur étranger, inconnu. Chaque soir, je vous parle, et quand je ne parviens pas à vous parler, je vous vois du moins, Hélène. Nous ne sommes séparés qu'à moitié.
Et les deux jeunes gens, avec cette impérissable confiance de leur âge dans l'avenir, après s'être absorbé les larmes dans les yeux et le trouble dans l'esprit, se quittèrent, le sourire sur les lèvres et l'espérance dans le cœur. Gaston traversa une seconde fois, et avec le même bonheur que la première, l'étang glacé, et s'achemina vers l'arbre où était attachée sa monture. Mais au lieu de son cheval blessé, il trouva celui de Montlouis, et grâce à cette attention de son ami, il fut de retour à Nantes en moins de 3 quarts d'heure, sans avoir fait cette fois aucune mauvaise rencontre.